bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges, l'histoire d'Épinal et également l'histoire de France. Et pour ces prochaines minutes, nous serons, c'est traditionnel, en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes tout d'abord notre intervenant, mais surtout vous êtes agrégé d'histoire et c'est vous qui nous proposez de présenter l'histoire de notre département à travers la grande histoire de France. Et actuellement, nous traversons les évolutions militaires et les différentes décisions qui ont été prises pour moderniser les fortifications en prévision d'un conflit avec ce que l'on appelait autrefois l'Empire germanique et qui aujourd'hui s'appelle donc l'Allemagne. Nous avons présenté lors de notre précédente émission le parcours du général Haxo et le nom que nous avions évoqué en fin d'émission, c'était celui de Céret de Rivière. Je vous propose qu'on puisse poursuivre avec ce personnage.
Alors, Céret de Rivière, c'est celui qui vient après Haxo, avec il y a un laps de temps quand même entre les deux, hein, puisque j'ai dit que Haxo termine sa carrière, enfin il meurt en 1838. Céret de Rivière, lui, on va entendre parler de lui à partir de la guerre de 70, et en particulier donc dans le procès Bazaine, d'une part, mais surtout quand il est nommé inspecteur général du génie, et qu'il va, en 1873, écrire un mémoire pour la défense des frontières de l'Est face à l'Allemagne qui risque de revenir à l'assaut de la France. Donc voilà. Mais je voudrais revenir, avant d'aborder le sujet de Céret de Rivière et de se focaliser un peu plus sur Épinal, je voudrais revenir aussi sur le problème de l'adversaire potentiel. Parce qu'on l'a oublié, aujourd'hui on a une conception du XXe siècle où la menace vient toujours de l'Est. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je vais prendre quelques exemples. Par exemple, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, la menace pour la Lorraine, pour le duché de Lorraine, dont fait partie Épinal, même s'il était possession jusqu'au XVe siècle des évêques de Metz, mais enfin, le destin est commun, c'est le Bourguignon. Et d'ailleurs, je signale que on va remettre dans son lavoir une statue de Saint-Goëri. Saint-Goëri, l'un des patrons de la ville d'Épinal, et Saint-Goëri est représenté souvent avec un boulet à la main, c'est un boulet de canon. Enfin, il fait un peu, c'est un évêque un peu lanceur de poids olympique, parce que le boulet, évidemment, n'est pas tout à fait à l'échelle des boulets de canon. C'est un petit boulet. Mais pourquoi ? Parce que, à la fin du XVe siècle, lors des derniers sièges de la ville d'Épinal par les Bourguignons, donc avant Charles le Téméraire, les Bourguignons attaquent la ville depuis les hauteurs. Et les hauteurs qui dominent la ville, ben, chacun ici le sait, c'est soit la colline, ce qu'on appelle le point de vue, l'Offremont, soit le château, soit le plateau de la justice. Alors le château, c'est pas possible, puisqu'il y a un château, donc compliqué. L'Offremont, c'est un peu loin. Et reste le plateau de la justice. Et le plateau de la justice, ben, quand chacun d'entre nous montons vers l'hôpital actuel, ben, on domine la ville directement. Donc l'artillerie adverse, au Moyen-Âge, va venir bombarder la ville avec des pièces d'artillerie qui se trouvent là où se trouve l'hôpital actuellement. D'ailleurs, on a retrouvé des boulets de canon abandonnés, d'ailleurs, qui sont maintenant au musée du chapitre. Et donc, un de ces boulets de canon, lors d'un des derniers sièges bourguignons, l'un des boulets de canon va frapper l'église Saint-Maurice, qui n'était pas basilique encore à l'époque, va frapper l'église Saint-Maurice un jour où il y a une messe, et c'est le vitrail représentant Saint-Goëri dans le cœur de l'église du XVe siècle qui va arrêter, d'après la légende, qui va arrêter le boulet meurtrier. Et donc, depuis, comme Saint-Goëri a protégé d'un boulet bourguignon la ville, on le représente quelquefois, ce qui était le cas dans le lavoir Saint-Goëri, où on va le remettre, avec un boulet à la main. Donc voilà, donc l'adversaire, c'est le Bourguignon, donc le Bourgogne, c'est au sud-ouest de la ville, mais les Bourguignons arrivent évidemment par la vallée de la Saône, hein, tout simplement, hein, et par la vallée de la Moselle, bien sûr, à partir du bassin de Remiremont. Mais pour attaquer Épinal, bah, il faut attaquer le château. Bah, pour attaquer le château, il faut le prendre depuis l'est, depuis la Colombière. C'est là où on peut amener les machines de guerre, à plat, pratiquement. Ou depuis, comme je le disais, depuis le plateau de la justice. Hein ? Donc, effectivement, c'est une attaque de l'est.
Mm-hmm. Donc il faut faire le tour, il faut contourner.
Voilà, même si effectivement le Bourguignon vient de l'ouest. Et puis après, on va avoir à partir du XVIIe siècle, par exemple la guerre de 30 ans, les guerres de Louis XIV, on va avoir des adversaires qui vont venir en fait un peu de toutes les directions, puisque on a à la fois ce qu'on appelle les impériaux, c'est-à-dire les Allemands, à dire pour simplifier, avec aussi les Suédois qui viennent de l'Est ou qui viennent du Nord. On a les Espagnols qui viennent du Nord, mais qui viennent du Sud aussi par la Franche-Comté. Et puis on a les Français qui traversent la Lorraine pour aller guerroyer en Alsace. Donc voilà, tout ça fait que on a un adversaire là aussi tout azimut, et que la malheureuse Lorraine et la malheureuse ville d'Épinal est pris en tenaille entre tous ses adversaires. Alors après, avec Louis XIV, ça va se simplifier un peu, parce qu'on aura comme adversaire principal, ça sera surtout les, ce qu'on appelle les impériaux, c'est-à-dire le Saint-Empire romain germanique. Mais enfin, pas seulement, puisque Louis XIV, c'est aussi l'Espagne, c'est aussi la Hollande, etc. Mais enfin, les Hollandais, ils viennent pas jusqu'à Épinal, sauf en vacances.
Voilà, je pense que c'était effectivement important de nous rappeler cet ennemi, parce que selon l'ennemi, la position de la ville peut se trouver fragilisée et son utilité également peut se trouver amoindrie. Je pense que jusqu'à une certaine époque, les Vosges protégeaient naturellement Épinal.
Oui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, en dehors des fortifications médiévales, des restes de murailles comme on l'a dans le quartier du Chapitre, par exemple, à Épinal, ou le château, les ruines du château, on n'a pas du tout eu de progression de la fortification, de la défense de la ville jusqu'au XIXe siècle. On a bien effectivement une construction de casernes au bord de la Moselle, les casernes Saint-Éloi, devenues casernes de Comtade, là où se trouve le quartier de la Chipote, aujourd'hui, où se trouve le collège Clémenceau, caserne qui va être construite vers 1740-1742, avec une garnison permanente, généralement un régiment de cavalerie jusqu'à l'Empire, qui sera en garnison à Épinal, garnison permanente à Épinal, mais parce que c'est une ville qui n'est pas très loin du Rhin, qui n'est pas très loin de l'Alsace. Donc ces villes, où naturellement on va avoir un ravitaillement en nourriture et où il y a des voies de communication pour amener les troupes et éventuellement les faire sortir pour aller courir à la frontière, ces villes de garnison, elles sont essentiellement sur la frontière menacée. Donc pour nous, c'est effectivement la frontière de l'Est ou la frontière du Nord. Donc toutes ces villes, quelles qu'elles soient, ont des casernes plus ou moins importantes dès le XVIIIe siècle. C'est-à-dire où on ne va plus, comme c'était la tradition auparavant, loger les soldats chez l'habitant. Ce qui a amené évidemment quelques soucis malgré tout. Bref, voilà. Enfin, cela dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands arrivent, on loge les officiers chez l'habitant. Hein. Bon, voilà.
Beaucoup plus confortable que les casernes, pour le petit détail de précision.
Voilà, exactement. Et donc, en dehors de cela, Épinal se trouve quand même très en retrait, et comme vous l'avez dit, protégé par la montagne vosgienne. Vous pouviez quand même que, jusqu'au milieu du XIXe siècle, on avait trois voies principales pour traverser le massif vosgien. Il y avait au nord le col de Saverne, il y avait au sud le col de Bussan, il y avait au milieu des cols qui permettaient d'aller en Alsace, il y avait très peu de routes. Le col Schurt, par exemple, n'existait pas. Et donc, le seul col praticable, c'était le Bonhomme, hein, comme aujourd'hui, qui est encore la route des camions. Hein. Mais le col Schurt, la route de la Schurt, est construite sous le Second Empire. Hein. Donc, quand on part d'Épinal pour aller dans les Vosges, on part vers des contrées lointaines. Hein. On pourrait presque dire que le lac de Retournemer, c'est le lac où on retourne, effectivement. On ne va pas plus loin. C'est des contrées sauvages. Hein. On est protégé par cette montagne, ce qui n'est pas le cas de Belfort, la trouée de Belfort, ce qui n'est pas le cas de Toul, qui est au bout du plateau lorrain, hein, et donc qui est parfaitement accessible, et puis ce qui n'est pas le cas de Verdun, qui est sur la voie d'invasion traditionnelle, hein, souvenons-nous de l'époque de la Révolution, avec la bataille de Valmy, qui se fait à quelques kilomètres derrière Verdun. Hein.
On peut dire que naturellement, il y a une petite barrière qu'on appelle les Vosges qui va protéger Épinal, mais un peu plus au sud, Belfort est littéralement la voie de passage, et pareil au nord, donc Toul.
Bien sûr. Bien sûr. Et ça sera d'autant plus intéressant que les armées, comme je le disais tout à l'heure, se perfectionnement, on va avoir un matériel de plus en plus lourd et nombreux à transporter, et par conséquent, il nous faut des voies de communication qui soient aisées. On ne peut pas trimballer du matériel d'artillerie lourd, en dehors de Bonaparte qui traverse les Alpes avec son artillerie, pour pouvoir surprendre l'adversaire. Donc Épinal n'est pas une ville qui est directement menacée. En revanche, après la guerre de 70, là, les choses vont changer, et ça, on pourra en reparler dans une autre mission. Les choses vont changer parce que là, il y a les voies de chemin de fer qui commencent à être construites, et donc Épinal devient un centre ferroviaire important. On a des routes, comme je l'ai dit, avec le col de la Schlourte, on a des routes qui passent de plus en plus nombreuses à travers le massif, et donc des vallées qui deviennent, comme la vallée de la Moselle, comme la vallée de la Moselotte, comme la vallée de la Vologne, qui deviennent effectivement des voies d'invasion possibles. Et donc, Épinal, avec en plus de ça l'annexion de l'Alsace, la frontière étant rejetée sur les cols vosgiens, la ville d'Épinal est aux premières loges d'une invasion éventuelle. D'où la décision, à partir de 1873, de fortifier la ville d'Épinal et de la doter d'une très forte garnison, à l'instar de Belfort, de Toul et de Verdun.
Et donc ce sera le sujet de notre prochain rendez-vous pour justement parler de la construction de ces fortifications,
voilà,
pour pouvoir faire face à cet ennemi qui s'est rapproché du fait de cette frontière qui a été grignotée.
Voilà. Le suspense est à son comble. Vont-ils construire des fortifications autour d'Épinal ?
Une petite visite dans le pourtour spinalien donnera la réponse, je pense. Jacques Grasser, je vous remercie pour ces quelques éléments et puis je vous dis à très bientôt pour poursuivre cette série. Au revoir.
À très bientôt.